début 2000, très rapidement. Voilà.
On est content pour vendredi, on va
ouais,
s'amuser.
Ça va être trop cool. Ouais. On va rentrer tôt apparemment.
C'est dommage.
Tant pis.
Mais tu pourras boire de la 8-6 sur la banquette arrière si tu veux.
Non, ouais, voilà, non, ouais. Non, c'est ma voiture, non.
Alors, on peut pas. Allez, tout
mais
non,
belle programmation, je crois, beaucoup.
Dans le coffre, même
profil,
pas.
Ouais. Plutôt cool.
Voilà, et ben ouais, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Et en tout cas, il est 20h, donc on va vous quitter.
Ah oui.
On se dit rendez-vous dans 2 semaines.
Et ouais, exactement. C'est ça. Ciao, bye bye.
Bisous. Bisous. Une bonne soirée.
Merci. Ciao.
Merci, Julie.
Chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan. Shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
20h03 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de l'antenne. Tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. Vous en avez l'habitude comme chaque mardi de 20h à 21h sur le 101.5 FM. Cette semaine, émission plutôt tranquille, plutôt talk. Alors, vous le savez, on est le dernier mardi du mois et on était censé recevoir donc une joueuse ou en tout cas un représentant de l'UFAB 49 dans le cadre de notre partenariat. Malheureusement, ça va pas être possible pour ce mois-ci. Donc voilà, on a hâte de les retrouver le mois prochain et puis aussi sur le mois de mai pour la fin de saison. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est une émission talk, un peu tranquille comme les dernières semaines. On va pouvoir revenir tranquillement sur l'actualité sportive locale et internationale. À mes côtés, à ma gauche, Faustin est avec nous. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex et tout, bah ça va très bien.
Très bien, la forme.
Ouais,
Encore une victoire, je te pose encore une fois la question.
Et non.
Oh non.
Une défaite,
la fin de série.
Ouais,
la fin de série pour la Savrier Basket.
Ouais, on finit. On est en 17-1, malheureusement. Mais
Ah oui, 17-1, la série. Je crois que c'était le score du match. J'ai eu peur.
Non, on perd de 12 points contre les deuxièmes. On avait gagné de 15 points à l'aller, donc on reste premier.
Ok, quand même. Donc c'est plutôt positif. Vous restez donc premier, en lice pour le titre.
Voilà.
Donc,
tout à fait.
À ma droite. Cédric est avec nous. Salut Cédric, comment ça va ?
Salut tout le monde, bah écoute, ça va plutôt bien. Hein.
La forme ?
Ouais.
Un bon petit week-end.
Ouais, un week-end et surtout, chargé en niveau sportif.
Et puis surtout un autre qui se prépare.
Ouais,
on aura le temps d'en reparler. Peut-être qu'on,
doublement.
On en touchera deux mots peut-être en fin d'émission, mais effectivement, il y a un sacré programme qui arrive sur le...
Sur le week-end.
Voilà, c'est ça, avec un certain événement du côté du parc d'Expo d'Angers, c'est ça, c'est bien là-bas.
C'est ça, entre autres.
Bon, on va le dire, Angers Geek Fest.
Oui, il y aura Angers Geek Fest.
Exactement. Donc Radio G y sera, je crois.
Oui, Radio G est partenaire.
Pas en direct, mais voilà, ils auront un petit stand là-bas.
C'est ça.
Et toi aussi, on pourra te voir dans les allées du festival.
Dans les allées ou sur le stand d'Akita Home.
Et tu nous proposeras pourquoi pas une petite chronique pour la semaine prochaine. C'est ça, c'est ce que j'ai bien compris.
On va voir en fonction des disponibilités des gens. Et...
Exactement. La semaine dernière, vous vous souvenez, on avait reçu Max, qui nous a fait plaisir d'être là par téléphone. Là, il est retourné du côté de Paris pour ses cours. Il n'a pas pouvoir être là parce qu'il y a quelques heures, il était encore en manifestation aux côtés de CRS, un petit peu pas content, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, Max, on lui passe le bisou si finalement il nous écoute. Et puis, bah, on le retrouvera pourquoi pas dans les semaines à venir. Alors, donc, au programme, on l'a dit. Alors, bon, voilà, on n'a pas un gros week-end de sport, notamment au niveau local, puisque le SCO football et le SCO handball, notamment, n'ont pas joué. Le SCO rugby non plus n'a pas joué. Mais je vous toucherai un mot de la saison qui va être la fin de saison qui va être très intéressante. Du côté du club de rugby Angevin. Et puis on va plutôt parler aussi basket avec Faustin. On a trois équipes alors qui n'ont pas toutes gagné, puisque je crois que Cholet a perdu ce week-end, c'est ça. Mais on a des choses à dire sur l'UFAB qui a gagné, qui est plutôt bien en championnat, sur le AB qui a gagné ce week-end, et aussi sur Cholet qui prépare une demi-finale européenne quand même. Ce sera demain. Ce sera en Estonie, si je dis pas bêtise,
exactement.
C'est ça. Donc on reviendra un peu là-dessus. Et puis surtout, l'événement du sport local, c'est surtout l'Éduc d'Angers, cette demi-finale face au Dragon de Rouen. Je reviendrai un petit peu sur la confrontation entre les deux, mais voilà, on aura le temps évidemment de développer tout ça. Ensuite, en international, toujours football, avec ce rassemblement des éliminatoires à l'Euro 2024. On reviendra un peu sur les résultats. Et puis, Foussin, tu nous parleras basket, avec le retour de la March Madness, c'est bien ça ?
Exactement. C'est
donc pas de NBA cette fois-ci, que la March Madness.
Ouais, voilà.
Exactement. Et puis, je vous parlerai un peu des résultats en termes de tennis. Et puis, c'est vrai que tu nous feras un petit mot sur le catch. Et, c'est la WrestleMania, ça, qu'il y a eu
Le WrestleMania, justement, qui arrive ce week-end.
Ah, qui arrive ce week-end, d'accord. Donc, tu en toucheras deux mots également. C'est vrai que ça nous fait un week-end très chargé. Et on va donc pouvoir commencer tout de suite sur les infos locales. Donc, je le disais, pas de SCO foot cette semaine en raison de la trêve internationale. Et pas de SCO handball non plus, après le forfait général de Vénissieux que les Angevins étaient censés affronter ce week-end. Les deux prochains rendez-vous pour les deux clubs professionnels du SCO auront donc lieu la semaine prochaine. Pour les footballeurs, rendez-vous dimanche prochain à 15h contre Nice. C'est d'ailleurs l'un des seuls clubs de Ligue 1 ayant déjà perdu contre le SCO. C'est d'ailleurs donc au match aller, comme je le disais, que remonte la dernière victoire scoïste en championnat. C'était en septembre 2022, rendez-vous compte. Quant aux handballeurs, ils se rendront en Alsace, à Lanester, pour y défier la lanterne rouge de National 1 Elite. J'aimerais aussi qu'on revienne sur donc un autre club, Angevin, comme je le disais un peu en introduction, qui jouera la semaine prochaine. Donc c'est le SCO Rugby. Après leur victoire il y a deux semaines face au Mans, les joueurs de Victor Vara jouent tout simplement leur place en barrage d'accession dimanche prochain sur le terrain de la Roche-sur-Yon. actuellement troisième de leur poule de Fédéral 3. Les rugbymen angevins affrontent le leader lyonnais, assuré de terminer quant à eux à cette première place. Derrière les angevins se trouve donc Parthenay à un point et Puy-le-Borough à donc deux unités. Cette dernière journée pourrait donc être cruciale pour le SCO Rugby qui doit donc gagner pour valider cette troisième place qualificative pour les barrages et surtout pour notamment l'avantage du terrain sur ces barrages. Ensuite viendra le temps des 32e puis des 16e de finale, mais on n'en est pas encore là pour le SCO Rugby. Quoi qu'il en soit, évidemment, on est tous derrière les rugbymen du SCO pour aller chercher cette victoire ce week-end en Vendée et pourquoi pas on essaiera de les recevoir dans les semaines à venir. On va passer maintenant au basket. Il s'est passé un peu plus de choses cette fois-ci sur les trois clubs professionnels de Maine-et-Loire. Par quoi on commence, Faustin ?
Eh ben, on va commencer par l'EAB.
C'est parti.
L'EAB qui ils se sont bien remis de leur mauvaise série de trois défaites en s'imposant à domicile 103 à 88 contre l'Aza Gris Souffel, le club alsacien. Ils joueront ainsi leur prochain match samedi à Orléans. Je vais maintenant passer à l'UFAB. Ouais. Elles jouaient un match crucial dans leur quête d'accession au play-off car elles affrontaient Tarbes, alors à ce moment égalité à la 9e place du championnat. Au terme d'un match assez disputé, ce sont bien les Angevines qui finissent par l'emporter sur le score de 84 à 78. Cette victoire leur permet de sortir du play-down et se classe actuellement à la 5e position à égalité avec Charleville-Mézières qui ont aussi un match de retard.
Ouais.
Mais aussi avec seulement une victoire d'avance donc sur le 9e du classement.
C'est vraiment donc la troisième victoire consécutive hein, pour l'UFAB en championnat. C'est quelque chose de évidemment positif, Faustin. Aujourd'hui, là, elles sont quand même bien parties. En tout cas, elles sont dans une bonne forme pour se maintenir.
Ouais, c'est vrai que on avait reçu Annabella Fofana qui me disait qu'elle jouait chaque match comme une finale, ça avait marqué cette phrase. Et bah elles ont l'air de s'y tenir hein, parce que bah elles
clairement
sont en grande forme depuis qu'on l'a reçue.
Elles sont au rendez-vous donc trois victoires contre Basketland, on se souvenait de ce match, Landerneau et puis donc Tarbes et derrière un calendrier encore un peu pourquoi pas la passe de 4 avec un carré accessible. Calendrier accessible avec Toulouse, ce déplacement Toulouse qui pourra être intéressant. Et puis voilà un déplacement ensuite plus compliqué à Villeneuve-d'Ascq, la réception de Villeneuve-d'Ascq, pardon, je vais y arriver. Puis un déplacement à Charleville-Mézières et on termine la saison régulière par un derby le 25 avril contre Roche-Vendée. Donc ça va être aussi très intéressant de suivre ça. Et puis voilà, c'est vrai que elles sont plutôt bien parties au niveau du classement, tu l'as dit, elles sont pour l'instant quand même elles ont quand même une victoire d'avance notamment sur trois autres équipes puisque c'est Basketland, Roche-Vendée et Tarbes qui suivent juste derrière. Rien n'est fait hein, Faustin, c'est encore jouable pour les autres équipes de se rattraper, mais en tout cas c'est trois victoires qui font du bien parce que des défaites auraient compliqué les choses.
C'est clair que si ces trois victoires s'étaient transformées en trois défaites, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'avenir de l'UFAB cette saison.
Et est-ce que pour toi là actuellement elles sont provisoirement cinquième, elles seront à minima sixième, est-ce que tu penses que justement viser le plus haut va pouvoir leur permettre d'avoir un adversaire plus vraiment plus favorable ou alors pas du tout, ce sera à peu près pareil, l'objectif c'est vraiment 5 ou 8, c'est pareil.
À mon avis leur objectif c'est surtout d'éviter le play-down actuellement,
ouais.
Mais c'est vrai que ça leur ferait pas de mal de monter plus dans le classement pour avoir un premier tour plus facile entre guillemets, même si
ouais.
Vu comment c'est serré le classement quand même chaque équipe chaque rencontre peut être assez disputée.
Ouais. Et puis surtout, je regarde le classement là. C'est quand même impressionnant parce que c'est assez classique en termes de play-off. C'est le premier, le huitième, le deuxième contre le septième, etc., etc. Et on a quatre équipes devant. Donc Lyon, Montpellier, Villeneuve-d'Ascq et Bourges qui ont au minimum, je compte six victoires d'avance sur. Il y a clairement un match d'écart entre ces quatre équipes là et les autres équipes. Donc ça va être intéressant de suivre justement si il y a peut-être une équipe à prendre dans le lot. On verra ça évidemment dans les semaines à venir. On termine par Cholet. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose?
Non,
Cholet. Bon, on enchaîne sur Cholet.
Les Choletais qui ont malheureusement enchaîné deux défaites cette semaine. La première face à Dunkerque sur le score de 92-78 et la seconde à domicile cette fois face à Paris. Il reste cependant toujours troisième au classement, mais non plus qu'une seule victoire d'avance sur l'ASVEL et sur Dijon, mais on a aussi une seule de retard sur les deuxièmes qui sont les Mets. Les Mets qu'ils affronteront d'ailleurs le 25 avril et la billetterie a ouvert aujourd'hui à 15h avec des places qui sont parties en moins de 5 minutes.
Ah ouais?
Ouais, c'était chaud pour les avoir.
Et toi, tu y seras.
Coup de grâce, j'ai réussi à avoir ma place.
Donc tu verras Victor Wembanyama en vrai.
De mes propres yeux.
C'est incroyable.
Ouais, je suis aux anges.
Et comment t'as eu ces places justement? Tu direct?
Ouais, c'est ça, j'étais sur le site, j'ai rafraîchi la page dès 15h. J'étais en plein milieu de la manif.
Ah oui, t'es en plein milieu de la manif? Ouais. Et t'avais pas à cours?
Si, mais...
Ah ouais, ok, ça fait grève.
Ouais, voilà.
Grève des lycéens. Ok, bah c'est bien, tu t'engages et tout. Ok, du coup, en plein milieu de la manif, tu prends tes places.
Mes places.
Très bien. Eh bien, voilà. C'est bien, on a quelqu'un qui s'engage dans cette émission. Donc, pour revenir sur Cholet, donc il y a ce match demain. Ouais. Match hyper important, donc... On connaît pas trop cette équipe estonienne.
Non, pour nous français, le championnat estonien, il est assez mystique. C'est la seule équipe. Ils sont premiers largement au championnat estonien. Ouais. Cette équipe, c'est la seule donc qui joue de l'Europe en Estonie.
Ouais.
Et si ça arrive en demi-finale, c'est que ça doit pas être trop mauvais non plus.
Ouais.
Mais c'est jouable largement pour Cholet, qui sont vraiment bons cette année en plus.
Ouais.
Donc franchement, j'y crois fort.
Ils ont perdu sur blessure oui. Leur meilleur joueur TJ Campbell, je
ouais.
crois, c'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et ils ont recruté un joueur ukrainien, pardon, pour le remplacer. Et donc voilà, on verra s'il est capable de rapidement se mettre.
On espère hein,
se mettre aux aguets.
C'est vrai que l'absence de TJ Campbell a fait mal au top 8.
Ouais.
Il est vraiment manqué dans le match contre l'ASVEL. À voir si le remplaçant peut faire le
ce week-end il y a eu cette défaite.
Ouais.
Donc défaite, c'est peut-être ça aussi.
Mmh. Ouais, ça fait que deux défaites autant pour moi pour Cholet d'affilée quand même. Faut pas que ça continue en quand même parce que il peut vite descendre parce que le reste du classement en dessous est assez serré, ça joue à une, deux, trois victoires.
Ils sont combien à l'époque, t'as sûrement dû le lire mais
ils sont troisième. Là, ils sont troisième.
Ouais, ils sont troisième au classement. C'est ouais. ça. Très bien. Donc, pour Cholet, évidemment, on est tous derrière les Choletais pour aller décrocher cette finale de Coupe d'Europe FIBA. On va pouvoir passer maintenant au hockey. C'est l'heure d'ouvrir la page Duc d'Angers avec cette demi-finale de Ligue Magnus face à Rouen. Il y a une semaine, cette confrontation se lançait en Normandie sur la patinoire rouennaise sur le succès facile des Dragons 4-1. Le lendemain, les Ducs prenaient leur revanche en s'imposant en prolongation 2-1 grâce à la réalisation de Jonathan Charbonneau. Samedi, retour à l'Ice Park pour les Angevins qui avaient quitté leur public avec la qualif facile contre Bordeaux et les spectateurs des Ducs ont eu droit à une toute represtation puisque les Rouennais s'imposèrent 5-1 en terre angevine. Le lendemain, les joueurs de Jason O'Leary ont fait parler leur orgueil en s'imposant donc 6-3, une victoire qui permet donc d'égaliser dans la série à 2-2. Il reste donc du suspense avant les matchs 5 et 6 prévus en Normandie demain puis en Anjou vendredi. Dans l'autre demi-finale, Grenoble n'a laissé aucun espoir aux Jokers de Sergi Pontoise, avec donc sur les 4 matchs, 28-7 en faveur des champions en titre. C'est énorme, Cédric, ça a été des festivals. Donc on aura ce week-end, on saura donc ce week-end, pardon, qui a des Ducs ou qui a des...
ou pas.
Des Dragons. Oui.
Ou pas.
Ou pas quoi.
Puisqu'en cas d'égalité au bout des deux prochains matchs, il faudra jouer le 7.
Oui, mais du coup, je dis à la fin de ce week-end, puisqu'il y a le dernier match dimanche, je crois. Le match 7 est prévu dimanche.
Pas sûr, du coup.
J'ai checké ça, on verra, mais en tout cas, ce week-end, normalement, bon, on recheckera, mais normalement, ce week-end, on saura qui sera donc en finale pour jouer les Brûleurs de Loup. Cédric, on a vu une équipe des Ducs en difficulté sur sa patinoire. C'était donc samedi ou vendredi. C'est pas habituel de les voir défailler comme ça.
C'est le score quand même classique qu'on a généralement face à Rouen.
Ouais.
Donc en soi, en termes de but encaissé, il n'y avait rien de surprenant, mais c'est juste fait ce scénario où un match sur deux, on se fait largement dominer. Et derrière, enfin, on arrive à refaire limite l'inverse, quoi.
Ouais.
Ça, enfin, ça fait un peu comme le scénario de l'année dernière où c'est joué vraiment sans le match 7.
C'est ça. C'est vrai que ça s'était joué justement jusqu'à le dernier match, quoi.
Ouais.
Et donc, alors pour te confirmer, effectivement, c'est le 2 avril le match 7 prévu à Rouen.
Non, du coup, ouais.
Donc dimanche 2 avril. Et puis, bah, pour ceux qui veulent, match le 31 mars, vendredi. Donc voilà, à l'Ice Park. Ouais, donc c'est quand même bon. Au moins, ce qui est bien, moi je trouve que c'est quand même cool d'avoir pu direct dès le lendemain d'avoir su s'imposer donc sans trop laisser de place au doute. C'est vrai.
Ouais, bah comme à chaque fois, tu regardes sur le match 1, voilà, on se fait dominer, on réagit dès le lendemain pour faire ce qu'il faut faire. Là, même scénario. Pourquoi il y a autant de manquements? Enfin, après, est-ce que c'est réellement des manquements? Est-ce que ça peut être simplement de la fatigue aussi?
Ouais.
Peut-être simplement de l'orgueil aussi, peut-être du côté de Rouen, je sais pas. Enfin, il y a plein de raisons sûrement qui expliquent que, ouais. Bah, il y a pas de match plié.
Ouais, c'est pas
comme dans l'autre demi-finale, quoi, donc.
C'est ça. Et, du coup, tu la sens comment cette fin de demi-finale?
Bon, à mon avis, si on suit le scénario, ça va aller finir au match 7.
Ouais, tu penses?
C'est parti pour
match 7 à Rouen. Match 7 à Rouen.
Je crois que l'année dernière, c'était déjà le cas.
Ouais. Et donc, tu bis repetita, tu penses? Qualif des Ducs?
Va falloir voir, en fait, comment ça va se jouer demain.
Ouais. Tu penses que c'est un match important?
Ouais. En admettant, par exemple, que le scénario est inversé, que Angers gagne à Rouen, et que le match suivant, c'est Rouen qui gagne à Angers, tu sais que t'es capable de... Enfin, si tu l'as fait une fois...
Tu l'as même fait deux fois, du coup, tu l'aurais fait.
Deux fois, voilà.
Parce que t'as gagné...
T'es capable de le refaire sur le match décisif, en fait.
Et puis surtout, peut-être, si on gagne, c'est demain soir, du coup, peut-être que Angers, motivation plus que maximum, match de l'année...
En termes de scénario, pour les deux clubs, Angers, c'est forcément de viser la victoire demain.
Ouais.
Comme ça met plus la pression en fait sur l'adversaire finalement, puisque en cas de victoire, il faut qu'il y ait 4 victoires.
Oui,
là on est à 2-2.
Ouais.
Celui qui prend l'avantage demain, ça fera 3-2. Et du coup, tu sais que tu peux finir le game dès. Voilà, et vendredi, donc
Angers serait en position favorable.
Si encore le scénario, plus. Voilà, il serait en plus à domicile.
Alors qu'une défaite,
défaite,
il reste encore
il reste
le match à domicile.
Ce match, mais du coup, c'est le scénario inverse.
C'est à domicile. Voilà, donc on suivra ça évidemment pour les Ducs d'Angers. C'est vrai que ça va être une fin de saison haletante du côté de l'Ice Park.
Ouais, ça fait en tout cas. On va espérer que ça passe. Mais on pourra dire que ça a été quand même une drôle de saison quand même pour le club, entre le parcours en Coupe de France, où il y a ce petit bémol,
ouais.
La belle Coupe d'Europe.
Ouais, quand même.
Et puis là, un championnat qui a été un peu mitigé sur certains points.
Ouais.
Mais si on prend
un changement de coach,
changement de
président...
Président, bon, ça, c'est pour moi, c'est de l'extra sportif.
C'est l'extra sportif, quand même, oui.
Et puis, au final,
moins d'impact sur le.
Voilà, on voit que quand même le club, derrière.
Ah, bien sûr. Évidemment.
Ça, il n'y a pas joué.
Le club tourne toujours, quoi.
Pour l'instant, en tout cas, on verra après à l'intersaison comment ça se passait. Mais, on sera quand même, je pense, sur un bilan, quand même, plus que positif.
Ouais.
Même s'il n'y a pas de titre au bout, on aura une saison moins riche. Effectivement, en termes de palmarès, mais
ça reste
dans la continuité, ça peut être des bonnes bases si le coach reste bien, des choses comme ça. Les joueurs qui sont arrivés aussi en cours de saison, mine de rien, les dernières recrues font du bien là en play-off, donc
c'est juste une saison différente,
c'est ça, c'est
dans sa physionomie. Je me posais la question, il nous reste un peu de temps avant la pause musicale. Parce que donc, on va potentiellement faire normalement les générations d'or pour une deuxième édition donc cette année. Est-ce que vous avez, puisqu'on va rester un peu dans le côté local, est-ce que vous avez déjà des noms qui vous viennent à l'esprit pour les nominer, voilà, histoire d'en discuter avec avec ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent nous proposer sur nos réseaux potentiellement des noms qui leur viennent à l'esprit. Donc on rappelle les catégories meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur espoir, meilleur club et meilleur coach. Est-ce que vous avez des noms, voilà, rapidement, hein, des beautés comme ça qui vous viennent à l'esprit?
Bah, on sait qu'il y en aura un en tout cas cette année. Il sera sûrement pas dans aucune catégorie. Ça va être le SCO Foot, voilà. Hein, forcément.
Le SCO,
je pense que ça va être difficile de trouver quelque chose à en tirer.
Rien, on avait réussi quand même à trouver Mohamed Ali Chou dans les meilleurs
ouais,
espoirs.
Ouais, mais voilà, mais enfin, il y avait quand même, année, quelque chose. Enfin, malgré que, voilà, c'était pas.
C'est ça, on était maintenus, donc on pouvait se dire peut-être.
Oui, et puis bon, enfin, les qualités de jeu, c'était quand même un peu plus intéressant. Enfin,
oui, que cette année, bah, clairement.
Il y avait des choses à dire, mais là,
peut-être si on fait la pire équipe, peut-être qu'il pouvait avoir leur place.
Là, je crois que...
Mais bon, on va peut-être quand même pas faire ça.
Mais, non, après, bah, je dirais, donc, classement, on va retrouver forcément, bah, l'UFAM, l'UAB.
Ouais,
les classiques. Bah, forcément, l'Éduc, hein, malgré que ce soit, voilà. Après.
Nouveauté, je pense, par rapport à la semaine, à l'année dernière,
il y aura le Hand,
il y aura le Scandal,
voilà.
Avec la remontée. Il y avait quand même Mohamed Ali, le gardien égyptien, qui était nominé l'année dernière, parce qu'il avait été assez important, mais voilà, cette année, c'est évidemment plus. Voilà, il y aura peut-être des noms comme William Asmanebar, peut-être des dans les espoirs, il va falloir qu'on réfléchisse à ça tranquillement.
Dans les espoirs, je pense que ce sera peut-être un des sports qu'on n'a pas forcément traité cette année.
Les quoi?
Dans les sports qu'on n'a pas forcément traité. Voilà, il y a sûrement peut-être dans le cyclisme, des choses comme ça.
Ouais.
Peut-être voilà, des petites pépites en athlétisme notamment,
ouais,
des choses comme ça. Voilà.
On cherchera évidemment. Faustin, toi, est-ce que tu as des noms en tête?
Bah voir ce que font les clubs de basket pendant pour les playoffs aussi,
ouais.
Pour voir jusqu'où ils peuvent aller.
Ils vont tous les disputer, ouais, d'ailleurs. Et il y a quand même de grandes chances.
Ouais, le AB qui a quand même gagné la Leaders Cup aussi, donc c'est pas rien. Je pense que c'est une grosse carte qu'ils ont à jouer avec KMJ Williams qui a encore fait une saison
bien
de fou
sûr.
Quand même. Donc voilà.
Ils sont sûrement nominés d'ailleurs pour une deuxième fois consécutive.
Exactement. C'est ce que je pense. Voilà.
Très bien. Donc voilà, on suivra ça.
Et on verra si. Si les loups vont faire comme l'année dernière, sortir du bois.
Exactement. Ils vont pouvoir nous surprendre. Les loups qui sont actuellement quatrième, de troisième ou quatrième de proie, et qui vont disputer un petit sprint final, on va dire, avant la phase de play-off. En tout cas, voilà, ce sera, voilà, je voulais voilà, lancer un petit peu le débat, mais évidemment, il y a encore du temps avant cette échéance et de parler des vrais nominés pour la cérémonie des générations d'or. C'est comme un rendez-vous important pour l'émission. On va passer maintenant à la pause musicale et puis on va se retrouver après pour parler de toute l'actualité donc internationale. On va s'écouter tout de suite Josman et son titre Petite Bulle et puis on va se retrouver donc, attendez, excusez-moi, c'est le générique qui passait à l'instant, mais
c'est déjà la fin de l'émission,
non,
merci.
Non, pas encore évidemment, mais voilà, on se retrouve juste après donc cette pause musicale.
Avec la lave des volcans, yeah. Quand je vais bien, je rêve de liasse et de poitrine. Quand je vais mal, je rêve d'une balle dans ta poitrine. Peu à peu, j'ai vu défiler heures et années. Peu à peu, j'ai vu toutes les fleurs se faner. Yeah. En fait, globalement, yeah. Moteur frise d'emballement. On me dit que je suis trop bizarre, je sais, je suis pas très normalement. Yeah. Yeah. Baby girl, je crois que je suis pas le mec idéal, non. Je fais d'avenir légalement, la THC est remplacée calmement. Yeah. Je la fais smoke, elle me dit que ma weed est hypnotique. Yeah. Elle a du flow, je glisse dedans comme au ski nautique. Désintégratif de petit autiste. Je suis sous psychotique, je m'éloigne, je fume et je me soigne, yeah. Je fonce des dents ma bulle. Quand je suis dans ma bulle, y'a plus rien que je calcule. Ma weed est trop puissante, sa mère, je fume la Hercule. Et je reste dans ma bulle. Y'a trop de tentations, je me perds dans les tentacules. Je me sens bien dans ma bulle. Ou dans sa hiche quand j'éjacule. Ils sont toujours devant, je prends mon élan si je recule. Mon cœur est froid sous mon bulle. Dans ma tête c'est canicule. J'ai la rage comme un pitbull. Je me calme dans ma petite. Bulle, yeah. Toujours dans ma bulle. Bon c'est vrai que j'abuse, yeah. C'est pas ma faute à moi. C'est ce putain de vie que j'accuse. Life. On me dit Joss t'es paro. Moi je dis je tombe pas dans la ruse. Je sens que mon cerveau s'use. J'ai trop d'idées qui fusent. Quand vient la nuit,
quand vient la pluie. Je roule une grosse canne sur laquelle je m'appuie. Y'a ceux qui retournent leur veste, ceux qui me tournent le dos. Toujours dans le vrai, moi je fais pas pour de faux. Mignon garçon, big stoner, big doigt d'honneur, big charbonneur. Trouve pas le bonheur, mais je m'en bats les couilles tant que je reste un homme d'honneur. Je reste un vrai négro jusqu'à ce que sonne mon heure. Bitch, t'étais où quand mes poches étaient vides? Reste où t'étais et ma proche est vide. Fini le stick totalement, puis je communique plus verbalement. L'esprit est dans littéralement, la THC a remplacé calmement. Je fonce des dents ma bulle, quand je suis dans ma bulle, y'a plus rien que je calcule. Ma weed est trop puissante, sa mère, je fume la Hercule. Et je reste dans ma bulle, y'a trop de tentations, je me perds dans les tentacules. Je me sens bien dans ma bulle, ou dans sa ch quand j'éjacule. Je fonce toujours devant, je prends mon élan si je recule. Mon cœur est froid sous mon pull, dans ma tête c'est canicule. J'ai la rage comme un pitbull, je me calme dans ma petite bulle.
De retour dans Génération Sport, votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. On est donc toujours avec Faustin et Cédric pour parler de toute l'actualité internationale. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, par le football. On en a parlé la semaine dernière, c'est la première trêve internationale post-Coupe du Monde pour les Bleus. Et c'est l'occasion d'entamer les éliminatoires de l'Euro 2024. Opposés dans leur groupe aux Pays-Bas, à l'Irlande, à la Grèce et à Gibraltar, ils défiaient vendredi soir les Oranges dans le Stade de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Didier Deschamps ont réalisé un départ canon, puisqu'ils menaient déjà 3-0 au bout de 22 minutes de jeu. Un but de Griezmann, un but d'Upamecano et enfin un troisième de Mbappé avant la pause. Après un timide retour des vestiaires, le nouveau capitaine français Kylian Mbappé y est allé de son doublé après une belle action en solitaire pour sceller le succès tricolore. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'arrêt sur penalty du nouveau gardien des Bleus, Mike Maignan, qui repoussa la tentative de Memphis Depay en fin de match. Trois jours plus tard, après cette donc rencontre quasi parfaite, les Français ont eu plus de mal hier donc contre l'Irlande. À Dublin, les Bleus ont dû s'en remettre à la magnifique frappe de Benjamin Pavard en début de seconde période et surtout à une magnifique parade encore une fois de Mike Maignan qui a été décisif sur sa ligne en fin de partie. Résultat, 2 victoires en 2 matchs, 6 points glanés sur 6. Les Français ont d'ores déjà évité quelques pièges et aborderont avec sérénité les prochaines échéances de ces éliminatoires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux matchs? Alors, vous m'avez tous les deux que vous avez pu voir que le premier, donc qui a été clairement le plus abouti. On parlait des enjeux, des nouveaux, de pas mal de changements depuis cette fin de Coupe du Monde. Clairement, c'est une satisfaction aujourd'hui cet entame de renouveau justement.
Bah oui, clairement. C'est quand tu mets 4-0 aussi facilement aux Pays-Bas, c'est que l'équipe vit bien quoi. Concrètement, Mbappé qui prend son rôle parfaitement à cœur, qui le remplit, qui a l'air de le remplir très bien en tout cas. Ça a peut-être été visiblement plus compliqué au vu des stats contre l'Irlande.
Ouais. Mais ouais, il a pas fait un bon match, faut le dire.
Voilà, j'ai pas vu le match, mais de ce que j'ai vu des notes qu'il a eu sur l'équipe ou quoi, c'était pas terrible apparemment.
Ouais.
C'était pas terrible des deux côtés en toute façon.
Ouais.
Pour ce que j'en ai vu.
Ouais.
C'était pas exceptionnel. Hein. C'était pas du
le match.
Football,
le match était pas dingue. Il y a cet éclair de génie de Pavard, mais sinon il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et cette fin de match justement où l'Irlande a attaqué à fond et Mike Maignan qui fait deux arrêts incroyables. Le deuxième surtout est vraiment fou. Je sais pas si vous avez pu le voir sur les réseaux.
La
quoi,
frappe
mais,
elle est belle de base, il n'y a rien à dire. Il a cette détente et vraiment presque du bout de la main.
C'est dingue.
Il se met tout dans sa longueur et il la sort.
C'est complètement dingue.
C'est un très bel arrêt.
Je le voyais donc clairement. Donc voilà. Et justement, là, il y a eu deux victoires, deux clean sheets. C'est aussi une satisfaction parce que notre nouveau gardien, après des années de Lloris, est au niveau, et aussi notre charnière centrale après des années de Varane notamment.
Ouais, c'est là qu'on a des regrets qu'il se soit blessé pour la Coupe du Monde.
Qui ça? Aménian, oui.
Aménian, oui. Parce que clairement, je pense qu'il aurait pu avoir un impact du coup en finale. On sait que c'est un très très bon gardien sur les pénalties. Il en arrête pas mal en termes de stats.
Ouais, non, mais et là,
il l'a prouvé. Bon, alors, le pénalty. Faut que les défenseurs se coupent les bras.
Ah oui, parce que clairement, provoqué, là, tu parles de la faute.
Ouais. Il peut pas faire autrement. Hein. Ouais. Ça touche et voilà. C'est. Mais je sais plus quel match aussi où j'ai revu pareil le même style. Enfin, il y a un moment que ce soit à l'UEFA ou à la FIFA qui réfléchissent un petit peu. Enfin,
ouais.
Les mains volontaires, faut les remettre quoi. Enfin, là, clairement, on voit bien qu'il y a pas action de la main. C'est voilà, ça tombe dessus. C'est suite à une frappe. Enfin voilà. On a un but aussi qui a refusé.
Ouais.
Il y a apparemment une faute au départ. Elle est pas si flagrante.
De qui
Je sais plus en tout cas.
De quel côté, je veux dire
C'est sur le. Techniquement, ça aurait été le quatrième but.
De la France, ok.
Ouais.
Il me semblait que c'était pour.
C'est Diaby. Oui, ouais. Il y a hors jeu, ouais.
Alors pour moi c'est pas le hors-jeu qui a été jugé.
Quand tu
revois les images, c'est plus une faute sur le départ. Enfin en tout cas.
Bah ça doit être les deux. Bah,
s'il y avait hors-jeu, je suis pas sûr à 100% quand on voit les images, mais enfin bon, il y avait de l'envie au moins sur ce match-là.
Ouais.
Voilà, on prend une sortie de
domicile.
À domicile au Stade de France en plus. Voilà. Après on avait quand même la compo de départ qui était un peu surprise, surtout pour la pointe.
Ouais, Colomani à la place de Giroud.
Voilà.
Moi, j'ai beaucoup aimé Colomani sur ce match.
Mais oui, il a fait un très bon match. Hein. Voilà. Bon, après, il faut qu'il s'habitue à ce rôle-là.
Ouais.
Et le fait d'avoir interverti après, sur le deuxième match contre l'Irlande, qui est un match peut-être plus compliqué, on va dire, avec tout.
Je crois qu'il a mis Colomani à droite parce que Coman s'est un peu fait mal sur le premier match.
Et surtout, c'était clairement le moins bon. Au niveau de l'attaque.
Quand tu sais que, enfin voilà, historiquement, avec toutes les histoires qu'il y a eu avec la main d'Henri, tu sais que c'est très difficile d'aller jouer là-bas maintenant. Il y a toujours petite animosité.
Clairement.
Et tu peux mettre, du coup, un mec comme Giroud, qui a l'habitude un peu des ambiances, on va dire, un peu chaudes, tout ça, qui a connu l'Angleterre, qui connaît l'Italie. Enfin, pour une fois, je trouve un choix intelligent de la part des Deschamps. Aller mieux sur le premier, voilà. Alors, on va dire un match un peu plus tranquille.
Après bon, moi aussi j'aurais fait ça. Mais par contre, c'est vrai que il a pas été très convaincant Giroud sur ce match.
Ouais, mais faut que tu regardes
pareil, trois aussi dans l'équipe, je crois.
C'est à l'image de toute l'équipe hein, sur ce match-là.
Oui, le match a été raté globalement.
C'est des deux côtés. Et si tu veux faire un beau match, il faut être deux. Tu regardes quand même malgré que les Pays-Bas ils sont surpris 4.
Ouais.
Il y avait quand même du répondant. Côté donc non. La défense pour une fois qui a l'air de tenir en tout cas sur deux matchs.
Ou pas Mécano, Konaté, c'est quand même assez impressionnant et c'est plutôt cool parce que c'est des jeunes joueurs et qu'on va pouvoir les avoir pendant très très longtemps pour l'Euro, pour la Coupe du Monde. Donc ça va être hyper 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 intéressant de les avoir pour la suite quoi.
J'aurais voulu un petit peu plus du petit Thuram.
Ouais.
Pour voir
qui
réellement.
Qui est rentré quand même sur le match contre les Pays-Bas.
Ouais. J'aurais bien voulu voir ce que ça peut donner en équipe de France.
Ouais, bien sûr.
Après voilà,
il est rentré avec son frère. Enfin,
c'est ça, ouais.
Sur le terrain.
Je pense qu'il mérite du temps de jeu en équipe de France pour s'acclimater et tout. Enfin,
puis il y a la place au milieu quand même.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de gars ultra dominants. Il y a des bons joueurs, mais ça, si t'es un petit peu provoquant, je veux dire, si t'es un petit peu lagnac et que tu veux montrer quelque chose, faut le montrer quoi. Si t'es en attaque, t'es peut-être barré par Mbappé. Mais alors qu'au milieu, bon, il y a peut-être sa place à prendre, quoi.
Ah, mais c'est pour ça. Enfin, contre Gibraltar, qui a l'air d'être l'équipe la plus faible, en tout cas, sur le papier. Et pour l'instant, vu les résultats, voilà.
Les stats du match contre les Pays-Bas de Gibraltar.
Ouais, c'est
51 tirs à 0, 87
à 3. Il y a que 3-0 à la fin, je crois, pour les Pays-Bas.
Et la Grèce gagne 3-0 aussi. contre Gibraltar. Donc déjà on sait.
Déjà on sait que ça va être un bloc très bas et que justement c'est peut-être aussi. Alors je pense qu'on va gagner quand même 6 sur 6, mais ça va être chiant. Non mais surtout ce qui va être intéressant c'est de voir si l'équipe de France est capable face au bloc bas, face à des gens qui vont être, enfin une équipe qui va être regroupée derrière, qui va tout faire pour défendre. Est-ce qu'elle est capable de faire sauter le verrou et plus de deux trois fois quoi, vraiment un gros score.
De toute façon, pour que ce soit
on est là quoi.
Pour que ce soit un bon match, faut au moins leur en planter trois.
Ah bah minimum.
Parce que tu te dis qu'en cas de goal à virage, si t'en mets moins contre Gibraltar, eh ben ça peut hélas faire la différence. Hein. Donc mais par rapport, je pense que l'Irlande va sûrement faire à peu près le même tarif.
Oui. Non, mais Gibraltar, voilà, c'est pas le plus grand danger de cette poule, mais.
Non, mais ça peut être le plus enquiquinant en termes de faux pas s'il y a ou des matchs nuls, des choses comme ça, quoi.
Ah, bah, de piège, effectivement, oui. On se souvient du match nul contre le Luxembourg qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Ça remonte quand même un peu, mais voilà, c'est vrai que c'était. C'est toujours des matchs pièges et qu'il faut, t'as pas envie de perdre, quoi.
C'est ça.
T'as l'air encore plus d'un con que si c'était contre le Pays-Bas, justement.
Et au final, on pensait que que ces deux matchs-là, ça allait être les plus durs.
Ouais, clairement, parce que, les Pays-Bas, c'est la plus grosse équipe. Puis l'Irlande, on va dire, c'est la troisième plus grosse équipe du groupe. Et c'était là-bas. Ouais. Non, t'as raison. C'est pour ça que j'ai parlé de deux pièges et que faire 6 sur 6 sur ces deux pièges, en sachant que tu feras probablement 6 sur 6 sur Gibraltar, que la Grèce c'est pas très fort et que t'as encore l'Irlande à recevoir à domicile et que c'est les deux premiers qui passent sur 5, bon, la qualif elle est déjà un petit peu dans la poche, alors que ouais. C'est vrai que si t'avais fait peut-être un ou deux points sur 6, ça aurait été plus compliqué.
Les matchs retour vont être importants, je pense, quand même contre les Pays-Bas et...
ouais,
les Pays-Bas et puis l'Irlande du coup,
effectivement, oui.
Mais après bon, pareil, la Grèce a joué qu'un seul match, donc c'est encore
ouais
peu trop tôt pour dire leur véritable niveau.
Mais c'est vrai que la Grèce, ça descend un petit peu depuis quelques années, depuis leur titre à l'Euro 2004. Bon, on va clore cette page de football. Rien à rajouter, messieurs.
Juste qu'apparemment, l'équipe de France cherche des stades pour jouer ses matchs.
Oui, non, c'est vrai, ça va être intéressant. Justement, je vais en parler parce que tu parlais du stade de France. C'est vrai que ça va être intéressant. Ils vont essayer d'aller à droite à gauche.
Ouais,
ils cherchent quand même 25 000 places. Donc, ouais, ça paraît mon copain. Faut pas se faire d'illusion.
On peut peut-être essayer un truc à l'Iceberg.
Alors je crois pas non plus. Non plus, ça risque d'être compliqué.
On peut mettre de la pelouse synthétique, hein, ça se trouve il y a peut-être la taille de terrain, il faudrait étudier ça.
Pour du futsal à la limite. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que donc parce qu'en fait à partir de la saison 2023-2024 avec la Coupe du monde de rugby et les travaux liés au Stade de France, liés aux Jeux Olympiques plutôt. Ouais. Donc il y a 6 matchs notamment qui vont devoir être disputés en province comme on dit. J'aime pas ce terme, mais ça s'y prête, on va dire. Après, ça peut se jouer aussi au Parc des Princes. Ça peut se jouer. Je pense que ce sera probablement Lyon, Marseille, Lille.
Techniquement, t'as moyen de mettre un match dans le Nord, un match dans l'Est, dans l'Ouest.
Oui, voilà, plein de.
Tu peux faire du Lille.
Pourquoi
ou
pas Nantes, hein, pour ceux qui.
Lille, Nantes.
Nantes-Rennes.
Nantes-Rennes, ouais, ça fait pas mal, ouais. Rennes, ça fait longtemps qu'ils sont.
Rennes, ça fait un moment, ouais, parce qu'ils.
Ils ont pas reçu l'équipe de France.
Mais même à Lens, bon, ça fait pas longtemps, mais il y a le stade de Lille qui est assez grand. Le stade de Strasbourg, apparemment, qui serait...
candidat ?
Qui pourrait être candidat en termes de capacité. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de match, je crois, de l'équipe de France dans cette région-là.
Ça peut être sympa.
Ouais. Après, je pense que voilà, il y aura sûrement le Vélodrome.
Ouais.
Peut-être Bordeaux aussi.
Ouais, Bordeaux. Peut-être Toulouse.
Bordeaux...
Toulouse, je sais pas en capacité.
Toulouse, c'était là, mais... justement, Toulouse, ça relie tout parce que si c'était là, je crois qu'ils avaient fait le nul contre Luxembourg, justement. Donc ça remonte à quelques années, donc.
Mais non, mais c'est, enfin, au moins c'est bien, il va y avoir du match un peu partout en France, quoi.
Ça. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. C'est plutôt cool. C'est toujours cool pour les régions comme ça de recevoir les Bleus.
Ah, puis même pour les supporters, c'est beaucoup plus simple aussi de se déplacer toujours au Stade de France, quoi.
Exactement. Sinon, pour l'équipe de France féminine, toujours ça bloque un peu pour Renard, parce qu'il est toujours avec l'Arabie Saoudite, mais il va normalement signer. En tout cas, voilà, on verra ça dans les jours à venir, notamment très prochainement, puisqu'il y a une liste à dévoiler.
C'est fin de semaine, non?
Je crois que c'est fin de semaine, ouais, effectivement. Donc on verra ça. Et puis l'équipe de France Espoir qui a raté un petit peu sa préparation, puisqu'ils ont perdu 4-0. du côté de l'Angleterre. Donc voilà, c'était bah après l'Angleterre avait sorti une grosse équipe avec pas mal de joueurs qui jouent déjà en première ligue dans les grands clubs. Mais voilà, il y a eu ce match qui vient de se terminer donc entre l'équipe de France Espoir également et l'équipe d'Espagne Espoir, et donc 0-0, donc c'est pas forcément rassurant en vue de l'Euro Espoir qui arrive donc sur le mois de juin 2023. On va passer maintenant au basket. Faustin, tu viens de nous parler d'un événement dont tu nous avais déjà parlé l'année dernière, c'est la March Madness, et ça concerne, je crois, donc l'équipe de basket, les équipes de basket universitaires, c'est ça?
Exactement, c'est tout à fait ça. Et on connaît donc désormais les affiches des demi-finales, appelées aussi le Final Four. Et cette année, c'est assez inédit, car tout d'abord, on a deux équipes qui font leur première à ce stade de la compétition. C'est l'équipe de Miami et de San Diego State. Et c'est aussi la première fois de l'histoire de la compétition qu'aucune des quatre équipes tête de série numéro 1 atteigne les demi-finales, donc le Final Four. La première demi-finale opposera donc Miami à l'équipe du Connecticut, et la seconde opposera San Diego State à Florida Atlantic. On aura donc peut-être le droit à une finale 100% inédite si Miami et San Diego sortent vainqueurs de leurs demi-finales respectives. La finale qui aura lieu donc le lundi 3 avril. Voilà, c'était tout.
Oh oui, c'était tout. Lundi 3 avril, donc la finale de la March Madness.
Madness,
voilà. Toujours quelque chose que tu suis du coup, toujours autant?
Ouais, cette année je l'ai un peu moins suivi par manque de temps peut-être.
Ouais.
Voilà. Mais je regarde quand même, j'avais en général, quand je voyais, j'étais un gros upset, il y a quand même une tête de série numéro 1 qui s'est fait sortir par une tête de série numéro 16.
Ouais.
Donc ça, c'était dès le début, c'était assez impressionnant de voir ça.
Une vraie surprise, quoi.
Ouais, ça, un vrai upset, c'est comme ça qu'ils appellent ça pour la March Madness. Donc elle était vraiment, apparemment il y a eu pas mal de choses qui sont passées avec des grosses équipes qui se sont fait ressortir.
Ouais.
C'était sympa à suivre pour ceux qui ont suivi.
Et du coup, sinon au niveau de la NBA, tu nous en parleras donc dans les semaines prochaines, mais il y a les playoffs, ouais, et les play-in qui arrivent. Et là justement, c'est un petit peu la course pour choper les dernières places, on va dire.
Exactement.
Et un point peut-être sur les équipes qui tankent leur saison. Est-ce qu'il y a une équipe qui est en pôle pour choper Victor Wembanyama?
En ce moment, t'as Houston qui est vraiment pas mal, qui sont en 18, qui ont que 18 victoires, il me semble, depuis le début de la saison. Suivi de près de San Antonio et des Hornets, il me semble.
Okay.
Donc c'est en gros les trois, et de Détroit aussi. Oui, j'ai oublié, c'est les quatre équipes donc qui sont le plus en lice. D'un point de vue personnel, j'aimerais bien le voir arriver plutôt à San Antonio.
Pour moi aussi, je suis d'accord.
Une année sous Greg Popovich, au moins une ou deux.
Et puis surtout, la passation de pouvoir avec
Tony Parker.
Avec Tony Parker, ce serait complètement dingue.
S'il arrive à Détroit.
S'il chope le 9, le numéro 9.
Voilà, on a tout gagné.
On a l'image du siècle.
Il ne pourra pas le choper parce que le maillot est retiré.
Ah bah oui, je suis bête. C'est l'erreur bête. C'est vrai qu'il retire les maillots maintenant.
Et sinon, s'il arrive à Détroit aussi, il pourra rejoindre son collègue français,
bah oui, Yanis, c'est vrai. D'ailleurs, ça se passe bien pour lui.
Ouais, ça va en ce moment. Pendant longtemps, il est sorti, je crois que c'était 8 passes D en un quart temps.
Ok, pas mal.
Bon, il perd toujours des matchs, mais c'est l'idée du club cette saison.
Donc, ouais, c'est pour. Ah oui, voilà, pour tanker, comme tu l'as dit.
Pour lui revenir.
Exactement.
Ça serait pas un peu trop tôt quand même, San Antonio.
Pourquoi?
Au vu de l'histoire du club, enfin. L'héritage justement de Parker, ce serait peut-être mieux qu'il aille dans un club un peu moins ancré dans l'esprit des Français, enfin des choses comme ça.
Je sais pas, parce que San Antonio, le club, genre d'un point de vue à l'intérieur du club, il est vraiment beaucoup mieux géré que les autres clubs qui sont Détroit, Charlotte et Houston. Genre tout ce qui est coaching staff et tout, c'est vraiment supérieur et de loin par rapport aux trois autres équipes. Donc pour le voir se développer, je pense que ce serait mieux de le voir arriver à San Antonio pour qu'il puisse s'améliorer dans les meilleures conditions, à mon avis.
Ouais. Ok, ben merci Faustin pour cette petite analyse donc de la situation de Victor Wembanyama. On va maintenant parler un petit peu de tennis. On avait essayé d'en toucher deux mots, hein, par rapport à Roland Garros et donc à la forme incroyable de Carlos Alcaraz. Il y avait une Indian Wells, hein, que le Espagnol avait gagné. Et maintenant, cette semaine, c'est le tournoi donc du Masters 1000 de Miami, hein, qui avait débuté mercredi dernier et qui donc va se terminer donc dimanche prochain. Alors Carlos Alcaraz lui donc est toujours en lice hein, en huitième de finale, il jouera notamment ce soir, cette nuit, on va dire, dans quelques heures, quelques minutes, il jouera donc l'Américain Paul. Et puis surtout, on a quand même deux Français, donc faut le préciser, qui sont au rendez-vous de ces huitièmes de finale. C'est Adrian Manarino qui jouera l'Américain Eubanks, issu des qualifications, donc pourquoi pas une place en quart pour lui. Et puis Quentin Lys, qui lui aura fort à faire face au Russe Daniil Medvedev. À noter que voilà, d'autres favoris sont tout au rendez-vous, comme Tsitsipas qui jouera Khachanov également ce soir. Yannick Sinner est d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale après sa victoire aujourd'hui contre Rublev. Et Tyler Fritz a disposé du Danois Rune un peu plus tôt donc dans la journée pour se qualifier justement pour ces quarts de finale. On connaît déjà du côté des dames les quarts de finale de la compétition, du tournoi, avec donc l'Italienne Trevisan face à la Kazakh Rybakina. L'Américaine Pegula jouera la Russe Potapova. Une autre Russe, Alexandrova, jouera Kvitova. Et puis enfin, Sirtea qui jouera Sabalenka, également la Biélorusse. Alors Sirtea, elle a la particularité d'avoir sorti Caroline Garcia dès deuxième tour, donc voilà, Caroline Garcia qui est un petit peu en crise en ce moment de résultats, alors qu'elle est toujours donc quatrième au classement WTA, mais voilà, elle a changé notamment de coach, de staff, c'est un peu plus compliqué pour elle en ce moment, mais voilà, on espère que ça va le faire, notamment pour Roland Garros et pour peut-être vivre certaines émotions.
Surtout qu'elle préserve sa place
voilà, dans le top, voilà,
pour,
dans le top
pour,
10
pour essayer d'avoir un tout, enfin d'avoir un tableau plus favorable, bien sûr, ouais, au niveau du tirage.
Ce sera plus intéressant, évidemment, pour elle. Il est 20h51. On va pouvoir maintenant passer, Cédric, à ce que tu veux nous raconter un petit peu sur le catch et la WrestleMania qui va donc avoir lieu ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur l'événement?
Bah, gros week-end catches, en fait, qui va commencer même dès quasiment mercredi, parce qu'il y a toutes les petites fédés, enfin, petites, non, toutes les fédés indépendantes qui profitent justement de l'image de la WWE pour cet événement, puisque cette année en plus on est du côté d'Hollywood, donc la Californie, le soleil, les films, les acteurs, enfin tout ça. Et généralement, il y a toujours ces fédérations indépendantes qui viennent faire des shows 2-3 jours avant pour se montrer, profiter aussi du public qui se déplace en nombre de partout dans le monde en plus. Alors, je sais qu'il y aura des Français encore cette année, voilà. Et la nouveauté depuis plusieurs années, c'est que c'est sur deux soirées, donc ça allège vachement quand même la carte. On passe, au lieu d'avoir un show qui dure 6 heures, ça peut être très compliqué, ne serait-ce que même quand t'es sur place pour sortir après et trouver quelque chose pour aller déjeuner, enfin dîner du coup vu l'heure. Voilà. Donc deux jours, le samedi du coup 1er avril et le dimanche 2 avril. Une carte, sans trop rentrer dans les détails des matchs, mais qui est plutôt intéressante cette année, hein, avec quand même des retours marquants. John Cena, je pense que voilà, ça parle à tout le monde.
Oui.
Maintenant, voilà, grâce au film. Un retour aussi, là on voit que c'est vraiment le côté, on amène un nouveau public, Paul Logan, ouais, qui après s'être testé à la boxe, voilà, est en contrat officiel avec la WWE. S'il nous fait une petite performance comme il a fait la dernière fois en Arabie Saoudite, ça peut être très sympathique, ça enlève pas que voilà, le personnage en soi... On peut toujours avoir des doutes réellement sur ses motivations, s'il est là réellement que pour du business ou il y a un peu de plaisir. Ça, avec les frères Logan, c'est toujours le point un peu flou. Bon, après, au vu de sa préparation, il a l'air d'être quand même un peu plus impliqué que dans les combats de boxe truqués. J'ai dit truqués? Non.
Non.
Non. Arrangé.
C'est vrai.
Avec un beau chèque à la fin. Non, mais voilà. Sinon, sur un point de vue purement artistique, on va sûrement avoir des belles entrées avec pas mal de feux d'artifice. L'avantage, en plus, c'est dans un stade, donc sûrement de belles images. C'est C'est, bah voilà, c'est l'équivalent du Super Bowl ou du All-Star pour l'univers du catch.
Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que tu suivras évidemment.
Ouais, on va essayer. On va essayer parce que le week-end, il commencera le samedi tôt, le matin, pour se lever pour aller au GeekFest. Il va finir vers 20h, je pense, au GeekFest. Et le samedi, le show est pas avant 2h.
Ah ouais.
Ça fait un coucher pas avant 5h, à peu près, donc, s'il y a 3h.
Tu vas un peu dormir de ton côté.
On va peut-être dormir un petit peu le dimanche, au cas où je retourne au GeekFest. Et puis sinon, bah, dimanche, rebelote à 2h du mat, jusqu'à peut-être 5h du mat.
Ouais.
Et le lundi, il sera en mode... faut se réveiller parce que j'ai un rendez-vous Pôle emploi. Ah,
Donc voilà, ça va être un programme chargé pour toi.
Voilà, non, mais en tout cas, ça va être normalement un bon week-end d'un point de vue catch, aussi bien sur les petites fédérations indépendantes que sur la WWE.
Ok, bah très bien, merci pour ces infos au niveau du catch. C'est vrai qu'on en parle parfois dans l'émission. On va terminer justement cette émission de Génération Sport. On laissera ensuite la main aux plantes vagabondes. En parlant des différents événements liés au sport à Angers, ce qui arrive donc ce week-end, on a parlé donc notamment du SCO Rugby qui va jouer un match, mais du coup c'est du côté de la Roche-sur-Yon, donc un match très important. En tout cas, n'hésitez pas à suivre le résultat du côté du SCO Rugby. Au niveau du SCO Handball, il y a un match qui arrivera évidemment. Ce sera plus la semaine d'après, le 8 avril. Ce sera contre Mulhouse. Pour ceux qui veulent voir un match à domicile du SCO Handball. En tout cas, au niveau du SCO Football, c'est à 15h pour voir les Angevins défier Nice. Ça va être un match, bon voilà, on verra, parce que Nice est beaucoup plus en forme que au match aller. Ouais, voilà, donc ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui veulent y aller, c'est toujours possible. On a évidemment les Ducs qui jouent donc à 20h vendredi soir. N'hésitez pas à les encourager, quel que soit le résultat, j'ai envie de dire.
En espérant que ce soit la DRDDR, voilà. Et dans le bon sens.
Vous serez peut-être témoin d'une qualification pour la finale de Ligue Magnus, peut-être, évidemment, avec Dessy. Et puis, un événement qui arrive donc ce week-end, c'est... les Olympiades d'étudiantes, on était censé recevoir un petit peu ceux qui représentent cet événement. Ça s'est pas fait, mais en tout cas, déjà, on transmet l'info. C'est le 1er avril, donc au stade Mermoz. Ça s'appelle les Olympiades d'Angevine. Toutes les infos sont notamment sur leur Instagram. Et voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites, surtout principalement du sport. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, avec pas mal de matchs qui se jouent en même temps. On a du handball, du basket, du volley, du tennis, du foot et du badminton. Donc voilà, vous êtes servi si vous aimez le sport. J'imagine que toutes les inscriptions pour participer sont déjà faites. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours assez intéressant. Il y a pas mal de trucs qui est fait du côté, donc, je rappelle, du stade Jean Mermoz, si je dis pas de bêtises. Et puis, sinon, il y a bientôt l'événement fait par la Dallangevine qui va être assez intéressant. J'ai plus en tête, évidemment, notamment ce qui va se passer. Mais voilà, c'est un espèce de grand événement qui est notamment fait en partenariat avec notamment Luco pour créer un événement autour du sport angevin. Et c'est vrai que c'est assez intéressant comme projet. Donc ça s'appelle le festival Terre des Sports, donc qui se déroulera donc à Luco, directement à Luco, donc du 11 au 13 avril prochain. Donc là, ce sera dans un petit peu plus longtemps, mais voilà, pour ceux qui veulent que ça intéresse, puisque c'est clairement notre cible, on va dire, de ceux qui nous écoutent, et bien voilà, ce sera du côté du mois d'avril pour cet événement là qui va regrouper donc sport et la vie angevine, on va dire. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec moi donc pour cette heure de sport dans Génération Sport. On va se retrouver donc la semaine prochaine. On verra si on reçoit du monde. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram ou encore Facebook. Et puis on vous laisse avec le générique et puis on se dit à la semaine prochaine.